RFI, grand reportage, Marie Casadebé.
Comment accueillir dignement les mineurs étrangers qui arrivent seuls chaque jour à Paris? La question est d'autant plus urgente que leur nombre est en forte augmentation et que les moyens ne suivent pas. Le département a récemment triplé le nombre de places de mise à l'abri, mais de plus en plus de jeunes se retrouvent à la rue parce qu'ils ne peuvent avancer la preuve de leur minorité, condition préalable à une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Face à cette situation, des Parisiens se mobilisent. Mineurs isolés étrangers, la mobilisation citoyenne à Paris, un grand reportage. Signé Juliette Garbrand.
Et toi, tu sors de là aussi? Ils t'ont donné un rendez-vous?
Oui.
Oui, ils t'ont donné un hôtel? Déjà évalué.
Rue du Moulin Joly, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro Couronne. Nous sommes devant le bureau du DEMI, dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. C'est là que commence le parcours des jeunes migrants à Paris. La Croix-Rouge, sous délégation de la ville de Paris, leur fait passer un entretien qui servira de base aux services sociaux de la capitale pour déterminer si le jeune est bien mineur et donc s'il a droit à une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Ils doivent présenter leurs papiers, s'ils en ont, raconter leur histoire. Une réponse positive et c'est un hébergement, une scolarisation, un refus et ils se retrouvent à la rue. Toute la journée, des jeunes vont et viennent devant le bâtiment, des Parisiens aussi qui se mobilisent pour eux.
You have ticket for metro?
For me, it's just one.
Attends. Just one, it's not enough. You can do nothing with one. Just one, okay?
Je viens pour la notification et à la Croix-Rouge. Ça fait depuis un mois que je suis à l'hôtel. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, c'est Diarra Mahamoudou. J'ai 15 ans et je viens de la Côte d'Ivoire. J'espère avoir une réponse. Parce que je ne peux pas attendre jusqu'à 5 ans, 6 ans, je ne vais pas à l'école. Non, mais ça ira. Puisque je suis déjà là, ça ira quoi. C'est pas tout le monde qui arrive ici.
Mahamoudou ressort assez rapidement du bâtiment.
Alors, c'était plus rapide que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai présenté les différents dossiers et ils m'ont dit que ce n'est pas possible de rentrer. Et là, j'ai dit non, que j'ai eu mon interview depuis le 28. Je comprends même pas le système. En fait, il y avait deux Diarra Mahamoudou et c'était la même date de naissance aussi. Mais le pays était différent. Moi, je suis ivoirien et l'autre, les maliens. Donc, du coup, ils ont écrasé le dossier. Ils ont fait ça en un bloc, comme pour une seule personne.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils m'ont dit d'attendre à l'hôtel. Avec tout ce qu'on a fait, on espérait avoir mieux que ça, quoi. Ouais.
Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a subi pendant un voyage qu'il évoque à peine, mais qu'il ne recommencerait pour rien au monde s'il pouvait revenir en arrière.
Quand je suis arrivé, je n'avais personne ici. En fait, je suis venu avec une dame, mais elle est décédée en mer lors de la traversée. Donc j'ai décidé de ne pas rester en Italie, de venir en France pour continuer les études. Je me disais que tout allait bien se passer. Et je ne savais même pas qu'il y avait des associations, tout ça. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois, à la gare de Lyon, c'était tellement... J'étais perdu. Je suis resté comme ça une semaine et alors j'ai croisé une dame qui m'a montré la couronne.
Une semaine, vous êtes resté à la gare de Lyon?
Environ une semaine.
À dormir où?
Devant la gare, juste à la sortie du métro.
Quelques jours plus tard, Mahamoudou apprendra qu'il n'est pas reconnu mineur, comme de plus en plus de jeunes qui se présentent. Agathe Nadimi, professeure dans un lycée du quartier, vient presque tous les jours rue du Moulin Joly pour s'occuper d'eux.
Aujourd'hui, on va dire qu'à 90%, ils sont refusés de leur minorité. Pour n'importe quel motif. Almas, par exemple, sa lettre de refus est scandaleuse. En fait, il a bien montré sa tasquera originale, donc pièce d'identité civile qui prouve, afghane, qui prouve qu'il est mineur. Donc ils ne remettent pas en cause sa minorité, mais ils disent « rien ne justifie de l'isolement ». Et il n'y a aucun justificatif qui dit pourquoi il ne serait pas isolé. Donc la non-protection, elle est basée en fait, et la remise dehors, elle est basée sur des choses qui sont du vent en fait.
Et ces jeunes sont donc à la rue, car si la ville de Paris met à l'abri chaque soir près de 300 jeunes en attente d'une évaluation, rien n'est prévu pour ceux qui ne sont pas reconnus mineurs. Des adolescents qui se retrouvent aussi dans un no man's land juridique, car ils ne sont pas pour autant considérés majeurs. Certains, avec l'aide d'associations, déposent alors un recours devant le juge pour enfants. À l'issue de la procédure, la moitié d'entre eux environ sont finalement reconnus mineurs selon les associations.
Le recours peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Pendant cette période, ils sont rien, ni majeurs, ni mineurs, laissés à la rue, sans 1 euro en poche, sans un ticket de métro en poche, et qui ne sont rien. Donc là, par la force des choses, il y en a qui vont avoir le courage, qui vont avoir l'énergie, qui sont suffisamment battants pour accepter de faire ce recours et de dormir des mois à la rue. Et puis il y en a qui partent, qui vont tenter leur chance ailleurs, qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas ce courage.
Le premier objectif de tous ces jeunes, c'est d'aller à l'école. Mais pour être scolarisé, il faut avoir une prise en charge officielle. En attendant, des bénévoles proposent leur soutien. Ce matin-là, il fait beau. Le jeune Souleymane, vêtu d'un sweatshirt à fleurs très coloré, me guide, tout sourire, vers une bibliothèque municipale non loin des bureaux de la Croix-Rouge.
Là, nous sommes à la bibliothèque Couronne où toutes les jeunes mineurs isolés viennent prendre cours. Il faut qu'on vienne chaque jeudi, vendredi, pour apprendre, pour ne pas rester seulement à la maison, apprendre la langue, puis qu'est-ce qui se passe en France, beaucoup de choses.
Comme Mahamoudou, Souleymane est arrivé un jour gare de Lyon sans savoir où aller.
Moi, je m'appelle Souleymane Diaby, j'ai 16 ans et je suis en France depuis le 22 décembre. Je me suis retrouvé à la gare et directement, je me suis rendu à la police et ils m'ont donné à manger, à boire, ils m'ont mis au chaud. Tout ça. Après, ils m'ont embarqué dans une voiture pour m'amener à la DEMI. Ils m'ont dit qu'ils vont prendre soin de moi, ils vont me prendre en charge, de tout ça. Puis, j'étais content. Pour moi, je crois que j'étais dans un monde qui était, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Une fois arrivé au DEMI, j'étais content, mais après, c'était horrible. Parce que là, ils m'ont mis à l'hôtel juste 5 jours. Après, ils m'ont mis dehors et je ne savais plus quoi faire. Le jour qu'ils m'ont hébergé, c'est le même jour, ils ont fait mon entretien en même temps. Ben, j'ai rien compris et après 4 jours, ils m'ont donné une mauvaise réponse, que je ne dois pas être là, que je ne suis pas mineur, comme ça. Après, ils m'ont mis dehors. Je ne savais pas où aller, je suis resté avec les amis, traîner. Et heureusement, j'ai une amie qui habite à Nice, je l'ai appelée. Elle m'a mis en contact avec des gens et du coup, ils ont appelé un monsieur qui est venu me chercher. Il m'a dit, t'inquiète, mon grand, on va t'aider.
Et depuis, Souleymane ne dort plus jamais dehors. Orphelin, il est arrivé à Paris épuisé par un voyage traumatisant au cours duquel il a perdu la trace de son frère.
Là, j'étais avec mon frère, Omar. On s'est séparés en Libye lors du traversée. Parce qu'en fait, là-bas, on vous divise. Tu vois, on était beaucoup. Je vois qu'ils ont mis mon frère à l'écart avec d'autres jeunes qui ont déjà payé. Bon, moi, j'ai rien compris. Et puis, en se séparant, il m'a donné un papier que c'est mon extrait, que demain c'est moi en cas si on ne se voit pas ou soit on se verra. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles de lui. Et nous sommes venus en France parce qu'on avait une tante qui était un peu méchante avec nous. On voulait aller à l'école, puis on n'avait pas le temps. Elle nous faisait travailler, vendre. Et on nous mettait la pression pour qu'on puisse aller vendre pour elle. Elle était seulement intéressée par l'argent, tu vois. Et moi, c'était pas une vie pour moi, quoi. Parce que là, c'est mon avenir qui est en jeu, tu vois. Et mon frère, il a décidé qu'on ne pouvait pas rester avec elle. C'était pas une bonne solution. Et l'argent qu'on a récolté nous-mêmes pour elle, mon frère, je crois, il a pris ça et m'a fait fuir.
Dans la bibliothèque, qui n'est pas encore ouverte au public ce matin-là, les bénévoles de l'association Paris d'Exil et leurs élèves déplacent les tables, prennent un café, on s'installe.
Je suis Frédéric, bénévole pour Paris d'Exil. Je suis prof à la fac. Donc on accueille les jeunes depuis plus d'un an. Moi je suis là depuis la rentrée, donc septembre-octobre. À un moment on tournait à 30, 40, on s'est dit oh là là c'est beaucoup. Là on a complètement explosé, on est à plus de 70 certains jours. Et on a fait des groupes de niveau entre guillemets.
Pas loin d'une dizaine de groupes, des non-francophones aux plus avancés. Dominique, une retraitée de 63 ans, s'occupe des intermédiaires.
Toi Ibrahim Wagué, ça va bien Ibrahim?
Oui ça va.
La forme? Je vais vous copier ça, vous allez travailler là-dessus. Ok, ça marche okay.
Pendant ce temps, à la table des débutants, Bakary a déjà son cahier ouvert.
Depuis moi, je suis venu ici, je suis venu prendre des cours de français ici. Ben, avant, je ne peux pas parler, je ne peux pas écrire, mais ça va aujourd'hui. Je peux le comprendre, même ce que vous allez en train de dire, je peux le comprendre. Mais
le cours commence.
Midi et demi, fin des cours. Une grande partie des jeunes se dirigent vers un square tout proche où un déjeuner les attend et Bakary apprécie.
On n'a pas trouvé d'autres cours comme Bibliothèque Couronne. C'est meilleur.
comme l'école. L'école, il fait des cantines.
Oui.
Voilà, mais nous aussi, c'est là qu'il y a une cantine. C'est très bon. Il y a tout. Les sandwichs, il y a des fruits, il y a des jus, couscous, il y a plein de choses.
Dans le square, les bénévoles ont réquisitionné les tables de ping-pong. Ils sont une dizaine à servir le déjeuner.
Massasen, on n'est pas une association, on est juste entre amis. Un petit groupe d'amis, on essaie de faire du mieux qu'on peut, parce qu'il y a besoin. Sinon, ils ne mangent pas.
Je remercie vous, parce que vous, il est gentil, toujours nous donner manger, chaussures, tout ça, Zavi, comme ça.
Regarde ce qu'on a ramené aujourd'hui. Ça te parle ou pas, ça?
Oh, c'est mon plat, ça,
ah, c'est... Ça,
c'est bon, ça. Ça, c'est bon.
C'est quoi?
Ça, c'est sauce poulet yassa. Ça, c'est yassa, comme riz de Sénégal.
Julie Seboun coordonne les cours de français des bénévoles de l'association Paris d'Exil. Elle déjeune avec les jeunes qui sont de plus en plus en demande, explique-t-elle.
Il y a plusieurs bibliothèques aujourd'hui qui pourraient être partenaires avec nous et on pourrait ouvrir des créneaux, on pourrait leur alourdir leur emploi du temps journalier. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on n'est pas du tout là pour remplacer l'école. L'idée, c'est que ces jeunes, ils sont dans l'errance totale toute la journée et que le fait de leur proposer le jeudi et le vendredi un lieu, c'est que 2 heures. Hein. C'est uniquement 2 heures de cours. Mais au moins, pendant 2 heures, ils ont des adultes qui sont là, à qui ils peuvent parler. Quand ils viennent d'arriver et qu'ils connaissent personne, ils ont 90 jeunes qui sont dans la même situation qu'eux. Donc, du coup, il y a quand même quelque chose d'assez rassurant pour eux. Ils se font des copains. Maintenant, donc depuis là, 2-3 semaines, le square qui est juste à côté de la bibliothèque Couronne, il y a des distributions de nourriture qui sont faites juste après le cours, à midi et demi. Ça a plus la forme d'un grand pique-nique, quoi. Donc on est tous ensemble. Il y a des gens qui viennent aussi leur distribuer des choses s'ils ont besoin, des sous-vêtements, des chaussettes, des dentifrices, enfin voilà. Puis ça nous permet, nous aussi, de repérer des profils très fragiles. Il y a un réel manque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas à nous de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif pour eux, où c'est de l'orientation et c'est de l'information bienveillante. Ça manque énormément et je pense que si ça grossit autant à Couronne et s'il y a autant de monde, c'est aussi parce qu'ils ont ce réconfort ici de voir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a les copains et qu'il y a des adultes bienveillants qui peuvent répondre à leurs questions.
Du réconfort, Almas Jabarkil, un jeune Afghan de 16 ans, en a eu bien besoin après des semaines d'errance.
Quand je suis venu à Couronne, à la Croix-Rouge, ils m'ont juste dit de partir. Ils ne m'ont rien demandé, comment je m'appelle, d'où je viens.
Vous n'avez pas eu d'entretien ?
Non. Non, et puis j'ai passé 3 semaines dehors. Tout allait mal. La journée, je dormais un peu. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Je restais assis à un arrêt d'autobus. J'avais tellement peur des gens. Des fois, des gens venaient, donne-moi ton argent, ton portefeuille, donne-moi ton téléphone. Un jour, j'étais assis tout seul, il y a eu une bagarre avec des Afghans et des Noirs, et j'ai été frappé. J'ai été à l'hôpital, mon doigt était cassé, et mon épaule, partout, parce qu'ils m'ont tapé avec des bâtons.
Almas a finalement passé son entretien d'évaluation, mais n'a pas été reconnu mineur. Aujourd'hui, comme tant d'autres, il est hébergé par une famille solidaire. Fin mai, un mercredi matin, 8h, nous sommes devant l'immeuble ultramoderne du Cazenave dans le 19e arrondissement. Ce centre du rectorat de Paris accueille et oriente tous les mineurs non francophones qui arrivent avec ou sans famille. C'est la première étape officielle pour aller à l'école, la vraie. Souleymane Diaby, comme tous les futurs élèves, doit y passer un premier test d'orientation.
Alors, tu n'as pas trop le trac ?
Non, pas tellement. Moi, je crois une fois que tu viens... On te prend directement et on te met à l'école, mais ce n'est pas le cas. Il faut d'abord passer des textes et voir un niveau, si tu es bien ou pas. Là, ils vont te scolariser, mais bon, on va voir. Et j'espère que je vais décrocher.
Alain Sexig, inspecteur d'académie, dirige le centre. Il rappelle une évidence.
La règle est très simple. Tous les enfants présents sur le territoire français doivent être scolarisés entre 6 et 16 ans. C'est la loi. Pour les jeunes qui arrivent de l'étranger, il y a une recommandation qui est présente dans nos circulaires du ministère de l'Éducation nationale, une recommandation visant à scolariser les jeunes entre 16 et 18 ans, pour ceux qui arrivent de l'étranger. En ce qui concerne les mineurs isolés, tous les mineurs isolés entre 6 et 18 ans sur Paris sont scolarisés. Tous.
Une fois qu'ils sont pris en charge par les services sociaux.
Une fois qu'ils sont clairement reconnus comme mineurs, isolés. Et bien entendu, parce que tout le problème est celui de certains jeunes qui, arrivant en France, ont plus que 18 ans et disent qu'ils ont 17 ans ou 17 ans et demi, ça arrive. Ça n'est pas la règle, ça n'est pas général, mais cela arrive. Et évidemment, il y a des contrôles qui sont effectués, pour la validité de papier en particulier.
Vous pouvez enlever les manteaux, les vestes, vous allez vous apercevoir qu'il fait quand même bon, et puis vous allez rester un petit peu de temps avec nous.
Si Souleymane peut passer les tests alors qu'il attend encore de savoir si la justice le reconnaîtra mineur, c'est parce que l'Académie de Paris est l'une des rares à faire des exceptions, à condition que les jeunes soient hébergés et pris en charge, même si c'est par des particuliers. Pour Alain Sexigue, c'est une façon de leur montrer que l'école leur est ouverte, et ça permet aussi d'aller plus vite pour les scolariser, si la réponse de la justice est positive. À présent, direction la salle d'examen, où Valérie Paroux, professeure en classe d'intégration pour non-francophones, accueille les futurs élèves et distribue les copies.
Ici, vous avez un texte, et ensuite, vous devez cocher la bonne réponse, une seule case. Ensuite, on tourne la page, et là, c'est un peu plus difficile. On va me demander, oui, bonjour, entre, tu parles français ? Oui, viens, viens te mettre ici.
Et pendant que les jeunes passent leurs tests, quelques adultes se retrouvent au café. Florian Depousse, architecte, accompagne ce matin Abdelkarim, un jeune Guinéen qui l'héberge.
On l'a rencontré via des amis qui s'occupent de manière individuelle des mineurs isolés dans la rue.
Vous aviez un engagement particulier ?
Aucun engagement particulier, mais juste une forme de révolte à voir la situation au pied de chez nous. C'est une forme de réseau d'individus voilà, qui, face à la situation, s'engagent non pas dans un cadre associatif ni même militant, mais juste personnellement.
Retour au centre du rectorat. À l'issue des tests, on retrouve Souleymane. Il a eu un entretien avec Jamila Nechab, qui s'occupe plus particulièrement des mineurs isolés.
Félicitations Souleymane, ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est bien passé.
C'était difficile ?
Bon, en français, non, pas tellement. Mais en maths, je crois un peu. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais quand même. Et j'espère que la suite, ça serait bien passé aussi.
Donc, il va repasser d'autres tests au niveau supérieur. Soit il va être orienté vers une formation professionnelle, soit dans un lycée général, il va passer le bac. Et avant la scolarisation, il va être convoqué à la demi-journée d'accueil. On leur parle des valeurs de la République française, les règles de la société française et l'école. Il y a une personne du service social qui sera présente pour leur parler aussi de leurs devoirs et leurs droits. Et à la fin de demi-journée d'accueil, on leur donne la remise des affectations.
Les affectations en filière générale sont rares, même si les jeunes en ont les capacités. Le rectorat cherche plutôt l'adéquation avec les métiers qui recrutent. Souleymane sera dirigé vers un bac pro de logistique. Abdelkarim, lui, devra améliorer son français en classe de mise à niveau avant de suivre des études. À Paris, pour aider tous ces adolescents à construire un avenir, une importante mobilisation citoyenne s'est donc mise en place. Cette mobilisation va trouver à la rentrée un relais de poids avec Médecins sans frontières. L'ONG ouvre en septembre dans la capitale un centre d'accueil pour les jeunes migrants, en s'appuyant notamment sur un réseau d'hébergeurs solidaires. Mais MSF demande aussi à l'État de prendre ses responsabilités et de mettre les jeunes à l'abri pendant toute la durée de leur recours en justice. Mineurs isolés étrangers, la mobilisation citoyenne à Paris. Un reportage de Juliette Gerbrand, réalisé par Sandrine Straram.